Voilà, je vous salue dans le nom du Seigneur que l'on sert et je suis en même temps content de me retrouver avec vous et en même temps, je dois vous dire que je suis frustré de ne pas être avec vous et de devoir parler en Zoom. Mais bon, comme l'a dit Guy, mon annulation de train tardive jeudi et d'autres réunions prévues à Lyon en début de semaine m'ont poussé à ne pas chercher de solutions alternatives. Alors, je vous propose, sans plus tarder, les amis, à lire un texte dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 4, versets 1 à 6. Je ne vais pas afficher le texte, suivez-le dans vos Bibles. Éphésiens, chapitre 4, 1 à 6. Alors, c'est Paul qui parle, je vais lire le texte dans la nouvelle édition de Genève, 79, un peu plus littéral que la Summer. Paul dit et écrit, « Je vous exhorte, donc moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation ou votre appel. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. » Jusqu'ici, la parole de Dieu. J'aimerais intituler ce passage « Vivons au sein de l'Église locale l'unité que Dieu nous a accordée. » Vivons au sein de l'Église locale l'unité que Dieu nous a accordée. Je suis tombé récemment sur une anecdote dont peut-être vous-même vous avez pu être témoin. Vous allez voir ce que l'auteur raconte. Donc, l'auteur raconte qu'il roulait sur l'autoroute et il aperçoit un peu plus loin deux moineaux qui étaient engagés dans vraiment un rude combat sur le bord de la route. Les plumes volaient partout, ça y allait dardard. Et puis, ils étaient tellement engagés dans un corps à corps qu'à l'approche finalement de la voiture, ils se sont élevés ensemble dans les airs. Ils se sont mis à volter aveuglément dans le couloir de la voiture qui arrivait vraiment vite. Et l'instant d'après, ils se sont écrasés sur le pare-brise. Ils étaient tellement occupés à se battre qu'ils n'ont même pas vu le danger qui leur a coûté la vie. Alors, cette petite anecdote nous rappelle que simplement les chrétiens ne sont pas à l'abri non plus des discordes pour toutes sortes de raisons. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas de gagnant dans cette affaire, mais souvent les personnes et le témoignage en ressortent meurtries, pour ne pas dire parfois anéanties. Et c'est là où l'exhortation de Paul aux croyants de s'efforcer de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix prend finalement tout son sens. Et je vous propose de traiter mon thème avec trois parties. D'abord, je voudrais rappeler le contexte de ces six versets. Ensuite, parler des attitudes qui favorisent et renforcent l'unité. Et je voudrais dire quelques mots aussi sur les sept piliers de l'unité des enfants de Dieu. Alors tout ça, ça peut être des rappels, certes, mais je crois qu'on a tous besoin des rappels de la parole de Dieu. L'apôtre Paul lui-même disait qu'il ne se lassait pas de redire aux chrétiens les mêmes choses parce que ça leur était salutaire. Alors je voudrais commencer par juste un petit rappel du contexte de ces six versets. Je pense que vous le savez, il y a deux grandes parties dans l'Épître aux Éphésiens, je ne veux pas m'attarder là-dessus. Il y a une première partie qui est doctrinale, qui est à croire, c'est les trois premiers chapitres où Paul va développer toute la richesse qu'on a dans notre union avec Christ. Et une deuxième partie pratique, une partie à vivre, donc composée des chapitres 4 à 6 où Paul va parler de notre comportement, de notre ce qu'il va appeler notre marche en Christ. Et le verset 1 du chapitre 4 est justement la charnière entre ces deux parties. Et va débuter par un petit mot qui est lourd de sens. Peut-être vous l'avez remarqué, ce petit mot, verset 1, c'est « Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, etc. » « Je vous exhorte donc. » Et ce petit « donc » fait appel finalement au poids de les trois premiers chapitres où Paul a cherché à susciter finalement l'émerveillement de ses lecteurs, en leur dévoilant d'abord au chapitre 1 qu'ils sont élus, adoptés, rachetés, héritiers, scellés du Saint-Esprit. Chapitre 2 qu'ils font partie d'un peuple nouveau, d'une communauté temple au milieu de laquelle Dieu habite, et qu'ils forment l'Église, dont tous les membres ont la liberté par la foi de s'approcher de Dieu avec confiance. Alors Paul dit, en conséquence de tout cela, eh ben, il faut vous comporter d'une manière digne de cet appel que vous avez reçu. De quoi ? Eh ben, de vivre une vie nouvelle, de manifester le caractère du Seigneur Jésus dans toutes vos relations les uns avec les autres, et ça commence au sein de l'Église locale. Dans les chapitres suivants, il va parler dans le monde du travail, et dans d'autres relations, mais là, c'est au sein de l'Église locale. Paul, d'ailleurs, donne un exemple de manière un peu incidente lui-même, en montrant qu'il était prêt à payer le prix de son appel d'être témoin de l'Évangile, puisqu'il se nomme au verset 1 « le prisonnier dans le Seigneur ». Alors, ce petit donc, finalement, c'est un appel à une cohérence de vie. Ce que nous croyons doit se traduire par des actes et un comportement. Il glorifie le Seigneur parce que sinon, ça prouve tout simplement qu'on n'est pas vraiment convaincu nous-mêmes. Mais ce petit donc encourage aussi et renferme en filigrane la réponse, finalement, de cœur touché par Dieu, un grand merci de la part de ceux qui ont connu et compris tout ce que le Seigneur a fait en leur faveur. Alors, Paul est même encore plus explicite, peut-être vous vous souvenez, dans Romains chapitre 12, verset 1, lorsqu'il va écrire « Je vous exhorte donc, encore le même petit donc, frères, par les compassions de Dieu, offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, etc. » On a, mes amis, l'essence même de la vie chrétienne ici, qui devrait finalement être vécue dans une constante reconnaissance à cause de ce que Dieu a fait pour nous. Le contexte, donc, derrière ces versets, par ce petit mot, donc c'est un mode de vie reconnaissant. Et l'apôtre Paul en parlera, bien sûr, à plusieurs endroits dans les Écritures. Je vous cite juste un seul verset, Colossiens 3, 17, « Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. » Je voudrais passer à ma deuxième partie, les attitudes qui favorisent et renforcent l'unité. Alors, Paul exhorte les Éphésiens à marcher ou à se comporter en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour et vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. J'aimerais faire 7 remarques concernant ces 2 versets. Première remarque. La première remarque, c'est que tous ces encouragements relèvent de notre responsabilité. Alors certes, Dieu a pourvu à notre unité qui est donnée par le Saint-Esprit, comme Paul le dit, mais il nous incombe, nous personnellement et ensemble, bien sûr, de la maintenir par des choix de comportement que nous savons plaire au Seigneur. D'ailleurs, chose intéressante, le mot grec qui est traduit par « marcher », ça ne signifie pas la balade, n'est-ce pas ? Mais littéralement, c'est ordonner son comportement et sa conduite. Ce qui veut dire que cette marche ou cette conduite fait appel à des choix intentionnels et volontaires d'attitude qui reflètent le caractère du Seigneur. Et Paul écrira un peu plus loin, même au verset 17, hein, dans la même épître, hein, qu'on ne doit plus marcher comme les païens, nous comporter comme des païens, mais dans l'amour, à l'exemple de Christ, comme des enfants de lumière, chapitre 5, versets 1 et 8. Pourquoi ? Mais pourquoi ? Parce que Dieu nous a rendus avec Christ, nous a rendus vivants avec Christ, chapitre 2, verset 4. On est maintenant, bel et bien, intégrés à un seul homme nouveau, rapprochés les uns des autres par le sang de Christ, qui est notre paix. On a le privilège d'avoir reçu une vie nouvelle par le Saint-Esprit, à laquelle est attachée la responsabilité de quoi ? Eh bien, de mettre en œuvre ou de faire fructifier notre salut, comme le dira Paul aux Philippiens, chapitre 2, verset 12. Deuxième remarque. Si le repas du Seigneur nous rappelle notre fragilité, comme l'a dit Guy, eh bien, ces exhortations d'Éphésiens 4, du début du chapitre, révèlent notre vulnérabilité également face au péché. Et finalement, elles révèlent en creux quoi ? Eh bien, notre orgueil, notre dureté, notre impatience naturelle. C'est assez facile de pointer du doigt les autres, et on est tous comme ça. On oublie juste une seule chose, c'est que quand on pointe du doigt une personne ou une situation, il y a 3 autres doigts qui sont tournés vers nous. En tout cas, si l'apôtre exhorte à faire le choix de l'humilité, de la douceur, de la patience, etc., alors c'est possible avec les ressources du Seigneur. Troisième remarque. Ce n'est pas pour rien si l'humilité est citée en premier. Et je dirais que c'est important pour deux raisons. Ben d'abord, la première, c'est que la chute a insufflé un esprit d'orgueil dans le cœur de l'homme et on a tous été contaminés, vous comme moi, par ce virus. Mais la deuxième raison est que ben, sans humilité, on ne peut certainement pas refléter le caractère de Jésus. Et Dieu nous résistera. Dieu nous offre un test très fréquent de l'état de nos cœurs dans nos relations les uns avec les autres. Quand Pierre va écrire, je vous cite ce verset dans 1 Pierre 5:5, « Mais tous dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Et je crois que Pierre sait de quoi il parle quand il dit ça, parce que lui-même a été repris, rappelez-vous, par Paul dans Galates chapitre 2, quand il marchait pas droit selon la vérité de l'Évangile, n'est-ce pas ? Il commençait à manger avec les païens, etc. Et il était repris publiquement, il s'est pas offusqué, mais il a accepté la réprimande qui était justifiée. Je crois que je dois vous dire que personnellement, je demande tous les jours au Seigneur de me garder dans l'humilité, la crainte de Dieu, la petitesse à mes propres yeux. Je suis conscient que l'orgueil se cache si facilement dans des choses auxquelles nous n'aurions pas pensé, mais c'est une réalité. Quatrième remarque. Marcher en toute humilité et douceur, dit l'apôtre. Alors, si vous allez à un entretien d'embauche, et souvent on vous demande quelles sont vos faiblesses et quelles sont vos qualités. Alors si dans vos qualités, vous commencez par dire « pour moi, mes qualités, c'est la douceur », c'est peut-être pas la première chose qu'il faut dire, parce que dans notre monde, la douceur, elle est perçue comme de la faiblesse. Dans une entreprise, on n'a pas besoin de quelqu'un qui est faible. N'est-ce pas ? C'est interprété en tout cas de cette manière-là. Mais il faut savoir qu'ici, le mot grec qui est traduit par douceur, praotès, ça signifie littéralement la force apprivoisée. C'est pas la même chose. La douceur du Seigneur Jésus, c'était pas de la faiblesse, mais c'était une parfaite maîtrise de sa force qui ne le rendait ni rude, et ça le rendait ni rude ni brutal, mais il restait doux et accueillant. La douceur et la maîtrise de nous-mêmes, mes amis, sont vraiment fondamentales dans les relations fraternelles. Pourquoi ? Parce que simplement, on est pécheurs et qu'en se côtoyant simplement les uns avec les autres, on va se blesser inévitablement, n'est-ce pas ? Donc, il ne va pas falloir réagir au quart de tour, sinon ça ne va pas le faire. Cinquième remarque. Remarquez le réalisme de Paul qui exhorte les croyants à marcher en se supportant les uns les autres, avec amour. Je ne sais pas si vous avez remarqué notre capacité à chacun de considérer quand il y a une brouille, quand il y a un problème, que c'est les autres qui sont parfois insupportables. Mais Paul dit de se supporter les uns les autres. Donc en d'autres termes, si on lit bien, personne n'est exempt de tomber dans ce travers et de devenir insupportable. Néanmoins, c'est possible d'apprendre à se restreindre face à la provocation. Comment ? Bien, l'apôtre dit dans le verset « se supporter avec amour ». Avec amour. Mais maintenant, vous me direz, mais il vient d'où, l'amour ? Mais il vient de Dieu lui-même. Les ressources sont en Dieu. Pourquoi ? Romains chapitre 5, verset 5 nous dit « l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné », dit l'apôtre Paul. Donc, si nous sommes de véritables enfants de Dieu, nous avons reçu cet amour qui est dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Sixième remarque. L'humilité, la douceur, la patience, etc., ne sont pas des attitudes isolées que nous pourrions développer indépendamment les unes des autres. Toutes ces attitudes sont interdépendantes, et je dirais pour au moins deux raisons. La première, c'est que le texte révèle divers liens textuel d'interdépendance entre toutes ces attitudes. Remarquez, on est appelé à marcher en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant, c'est un participe présent, donc une action continue, les uns avec les autres. Difficile d'être humble sans être doux ni patient et inversement, etc. Et deuxièmement, ces attitudes révèlent le fruit de l'esprit en nous. qui est l'amour avec toutes ses facettes. Vous connaissez dans Galates 5, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Ces facettes du fruit de l'esprit croissent dans les mêmes proportions que notre amour pour le Seigneur. On le sait, mes amis, et on est tous d'accord, la rupture d'un seul maillon d'une chaîne rend la chaîne inutilisable. Et de la même façon, mes amis, prêtons-y attention quand on voit chez nous de l'impatience, de l'orgueil, des attitudes un peu déplacées, compagnie. Alors, je dirais que simplement le Saint-Esprit nous alerte que notre relation d'amour avec lui et avec notre prochain, elle est rompue et qu'il nous faut simplement revenir au Seigneur et pour retrouver cet amour qui vient de lui et qui nous a été donné par son Saint-Esprit. Septième remarque. Sur les attitudes qui favorisent et renforcent l'unité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit que l'esprit, l'unité que l'esprit a donnée. Vous efforçant. Le temps du verbe grec par s'efforcer insiste sur le fait qu'il faut constamment nous efforcer pour maintenir cette unité. Ça ne se fera pas tout seul. Pourquoi ? Mais parce que cette unité, elle est constamment testée, elle est constamment secouée, elle est constamment mise à l'épreuve. Il y a toujours quelque chose qui fait que il y a des grains de sable dans les rouages. Et j'aime ce que Dominique Angers dit dans son commentaire, faute d'effort, l'unité s'évapore. J'aimerais maintenant passer au sept piliers de l'unité des enfants de Dieu. Combien de pieds minimum sont nécessaires pour que le tabouret soit stable ? Alors, c'est trop facile, j'aurais pas dû vous montrer la photo. Vous montrer l'image. Il en faut trois, n'est-ce pas ? Trois sont suffisants. Eh bien, mes amis, Paul mentionne dans les versets 4 à 6, pas moins de sept piliers de l'unité spirituelle que le Saint-Esprit a donné aux enfants de Dieu. Sept. Autant dire que notre Dieu a pourvu à une très forte unité spirituelle à condition que nous nous en saisissions. Qu'est-ce qu'il mentionne dans les versets dans ces versets 4 à 6, il en mentionne 7, un seul corps et un seul esprit, une seule espérance, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous. Et je crois que tout ça, ça fait partie de l'Évangile dont Guy nous a rappelé ou a mentionné. C'est la totalité de tout ça, n'est-ce pas, qui fait l'Évangile. Ce n'est pas pour rien, mes amis, si Paul cite ensemble, dès le début, un seul corps et un seul esprit. Le corps dont il est question, bien sûr, est spirituel. On est d'accord, c'est le corps de Christ, qui est composé de tous les vrais croyants. Depuis la Pentecôte, vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part, écrira-t-il dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 27. Alors, si Paul lit le corps avec l'esprit par un petit « et », c'est pour souligner au moins deux choses. D'abord, c'est Dieu, le Saint-Esprit, qui a donné naissance à ce corps-là. N'est-ce pas ? Paul écrira dans 1 Corinthiens 12, verset 13, que nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, etc. Mais, deuxièmement, c'est aussi pour souligner qu'il n'y a qu'une seule source d'unité, de vitalité, de croissance interne, n'est-ce pas, à ce corps. C'est le Saint-Esprit. D'ailleurs, je pense qu'on en a une démonstration lorsque on rencontre quelqu'un, un nouveau croyant, qu'on ne connaissait pas auparavant. Très rapidement, vous discutez avec la personne, on a le sentiment que vraiment on est de la même famille et on a déjà une histoire en commun. Et c'est le cas, et c'est le cas. Troisième pilier, une seule espérance. Si vous écoutez un petit peu ce qui se dit et les sessions qui ont lieu à l'Assemblée nationale, elles se font dans un contexte plutôt chaotique. Mais pourquoi ? Pourquoi ? Parce que le monde politique n'est simplement que le reflet de notre société fragilisée, divisée, qui se fonde sur des espérances différentes et vaines, parfois inexistantes. Nous n'avons pas à les juger, nous avons à prier pour nos autorités, certainement, mais c'est simplement une observation que je fais. Mais nous, mes amis, en tant que chrétiens, nous avons été régénérés, pourquoi ? Pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Et ça, c'est Pierre qui le dit dans 1 Pierre chapitre 1, verset 3. Il n'y en a pas 36, il n'y en a pas deux, il y en a une. Et cette espérance vivante, mes amis, elle est vivante. Pourquoi ? Parce que Jésus est vivant, tout simplement. Il est ressuscité. Et c'est cette espérance-là qui nous lie les uns aux autres. Dans la pratique, si on veut renforcer notre unité par notre espérance, alors il nous faut regarder à nouveau et encore et constamment à Christ, parce que c'est lui qui est notre espérance. C'est Paul qui l'écrira dans 1 Timothée, chapitre 1, verset 1. Ensuite, quatrième pilier, on voit que Paul mentionne un seul Seigneur. Je ne vais pas dire grand-chose là-dessus, mais j'aimerais simplement mentionner que ce n'est pas suffisant de chanter ensemble « Jésus-Christ est Seigneur ». Mais c'est dans la mesure où on se soumet personnellement à la Seigneurie de Christ que Dieu renforcera notre unité. Comme le dira Jean-Baptiste, il faut qu'il croisse et que je diminue. Cinquième pilier, une seule foi. Alors, il faut bien comprendre que le mot « foi », ici, n'est pas la confiance qu'on est appelé à placer dans le Seigneur. Comme par exemple, vous lisez des textes en « Ayez foi en Dieu », dira le Seigneur Jésus à ses disciples. Non, le mot « foi » ici a le sens de contenu du message de l'Évangile. Il y a une seule foi, c'est-à-dire qu'il y a un seul corps de vérité et de doctrine fondamentale concernant le salut, transmis aux croyants, les apôtres, que nous sommes appelés à croire pour rester unis. Ça fait partie des piliers de notre unité. Sixième pilier, un seul baptême. Personnellement, je pense que le baptême ici dont il est question n'est pas le baptême d'eau, mais le baptême spirituel qui unit le croyant au Seigneur Jésus par le Saint-Esprit et qui unit le croyant aussi au corps de Christ au moment de sa régénération. Ce qui unit le croyant avec les autres membres du corps de Christ, c'est bien son union avec Christ, c'est-à-dire son baptême spirituel, dont le baptême d'eau ne va être qu'un symbole et un témoignage. Septième et dernier pilier, un seul Dieu et Père, Paul écrit. Alors, si on a un seul Père, ça veut dire tout simplement qu'on appartient à une même famille. On a le même papa. Si on a le même Père, ça veut dire que nous sommes frères et sœurs en Christ. J'avais deux oncles qui étaient agriculteurs et qui travaillaient ensemble. Je ne peux pas dire qu'ils s'entendaient très bien. Je passais les vacances avec eux. Il y avait pas mal de remous entre les deux frères. Mais j'ai très souvent entendu mon grand-oncle dire « La famille, c'est sacré. On n'y touche pas. Les problèmes ne sortaient pas de la famille. » Et je me suis rappelé de ça. Je me dis « Mais franchement, ça devrait être aussi vrai dans le cas fortiori de notre famille spirituelle. » qui est une école pour apprendre à vivre ensemble sous la bienveillance du Père Céleste, même si ce n'est pas toujours facile, même s'il y a des choses à régler. Néanmoins, je veux dire, nous sommes une famille en Christ, ne l'oublions pas. Je voudrais faire deux remarques sur cette septuple unité que Paul vient de mentionner, de décrire. La première remarque, c'est que conserver l'unité de l'esprit, conserver et fortifier l'unité de l'esprit par le lien de la paix, comme il nous est dit au verset 3, ça consiste avant tout à mettre l'accent sur ce qui nous unit et donc à célébrer et à nous entretenir des thèmes qui forment notre unité, qui sont décrits au verset 4 à 6, par le chant, la prédication, mais aussi au travers de nos échanges fraternels. Et je crois que, mes amis, en fait, plus on est reconnaissant ensemble et plus on trouve des raisons de l'être. Mais plus on met l'accent sur ce qui ne va pas et tout, puis on va trouver des choses qui ne vont pas. Je crois que c'est important de dire que nos pensées, nos actes ou nos paroles façonnent notre cœur. Et c'est quelqu'un qui a dit, je n'ai pas retrouvé quel est l'auteur de cela, mais j'ai trouvé ça pertinent, « Semez une pensée et vous récoltez un acte. Semez un acte et vous récoltez une habitude. Semez une habitude et vous récoltez un caractère. » Mes amis, dans l'Église, au sein de l'Église locale, dans votre rassemblement, dans le mien, dans le rassemblement des enfants de Dieu, semons la reconnaissance, semons la louange, le service, l'amour de l'Église locale et laissons Dieu en faire croître les fruits. On sème, on arrose par nos prières, c'est Dieu qui fait croître. Deuxième remarque, quel est le poids de nos désaccords face à cette septuple unité qui nous rend solidaires et dépendants les uns des autres? Au sein d'une famille normale, il y a priorité sur la relation, indépendamment de ce que la famille peut vivre. Normalement, si la famille fonctionne quand même correctement, on peut dire. On apprend à relativiser ce qui agace chez l'autre, sachant que on n'est pas parfait nous-mêmes. Et je crois que chacun, même si vous êtes marié ou si vous vivez même dans les relations avec les autres, à un moment, vous êtes obligé de relativiser ce qui vous énerve chez l'autre et mettre votre mouchoir par-dessus, n'est-ce pas ? Je crois que c'est important que nous fassions aussi cela, vraiment dans les relations fraternelles. La plupart du temps, nos désaccords ne sont pas en relation avec des questions qui sont fondamentales. Et puis, je sais qu'il y en a qui cherchent une église qui est mieux, il y a toujours mieux ailleurs, vous savez, mais j'aimerais vous dire que si vous cherchez l'église parfaite, vous allez avoir du mal à la trouver. Et en tout cas, si jamais vous la trouvez, cette église, n'y allez surtout pas, parce que vous allez vous-même la polluer, cette église. Conclusion. Toutes ces exhortations de l'apôtre s'enracinent dans ce que Dieu a fait pour nous. Toutes ces attitudes que Paul nous demande d'adopter sont à notre portée parce que, comme l'a rappelé Guy dans le psaume 40, l'Éternel a multiplié ses merveilles et ses faveurs, ses desseins en notre faveur. N'est-ce pas ? Ça se fonde sur l'œuvre de Dieu. C'est Dieu a fait déjà pour nous, par la puissance qui agit en nous, son Saint-Esprit, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. L'unité, c'est déjà lui qui a pourvu par son Saint-Esprit. Alors vous me direz, oui, mais et alors si quand on chute, quand on pêche, mais la parole de Dieu a déjà pourvu à cela. Ça ne doit pas être un obstacle. Nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le Juste, dira l'apôtre Jean dans sa première épître. Et puis, si nous confessons nos péchés, mes amis, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Quand on voit ces choses-là dans nos cœurs, on peut simplement, dans nos cœurs, les apporter au Seigneur en disant, Seigneur, je ne veux pas être comme ça, je ne veux pas nourrir de tels sentiments. Purifie-moi, change-moi, transforme-moi. Alors, je dirais, ne nous trompons pas de combat, mes amis. Maintenons cette unité que le Saint-Esprit nous a donnée par le lien de la paix. Ce qui veut dire que, au sein du rassemblement local, priorité aux relations paisibles, qui seront la marque de notre volonté commune de rester unis autour des fondements de notre foi, malgré les désaccords inévitables. Place aux attitudes et aux paroles qui favorisent la paix, le consensus et l'entente. Et c'est possible, mes amis, en gardant les regards sur celui qui est notre unité, notre paix et notre espérance. Je vous remercie, mes amis, de votre écoute.